Chapitre 11. À l'attelage aux neuf étalons. Un grand chapeau de paille la protégeant du soleil de la fin d'après-midi, Suan laissa à Loghain le soin de franchir en premier la porte de Shilane. Le grand mur d'enceinte gris de Lugard lui parut en mauvais état, ce qui l'étonna assez peu. En deux endroits, il s'était écroulé, ce qui en restait n'excédant pas la hauteur d'une honnête palissade. Épuisé par le rythme que leur avait imposé Loghain depuis le départ de Cor-les-Sources, Min et Léane chevauchaient derrière Suan. Loghain tenait beaucoup à être le chef, et il était si facile de lui laisser croire que c'était le cas. Il voulait donner l'ordre du départ le matin, et choisir l'endroit où camper le soir. Il gardait l'argent et entendait se faire servir sa nourriture cuisinée par les femmes. Et alors, où était le problème? Au fond, Suan avait pitié de lui, parce qu'il ignorait le sort qu'elle lui réservait. Un gros poisson accroché à un hameçon pour en attraper un plus gros encore. De nom, Lugard était la capitale du Murandi, lieu de résidence du roi Roedran. Mais les seigneurs de ce royaume, s'ils prêtaient volontiers leur serment d'allégeance, refusaient obstinément de payer leurs impôts. Se fichant tout autant des autres requêtes du roi, ils incitaient le peuple à les imiter. Du coup, le Murandi était une nation fantôme, qui tenait vaguement debout parce que nul ne songeait à renverser le roi ou la reine actuelle. La couronne changeait très souvent de tête, et parce que la peur de l'Andorre ou de Liliane entretenait encore un vague sentiment de patriotisme. Des murs et des remparts se dressaient un peu partout en ville, la plupart plus délabrés encore que le mur d'enceinte. Construite selon le plus grand hasard au fil des siècles, la cité avait plus d'une fois été divisée en plusieurs fiefs, les bastions de nobles prompts à guerroyer les uns contre les autres. Avec ses rues sans pavés, c'était une ville sale, triste et poussiéreuse. Alors que des enfants jouaient dans les ornières des chariots, des hommes arborant de hauts chapeaux et des femmes en tablier, sur des jupes qui laissaient voir leurs chevilles, tentaient de se frayer un chemin entre les caravanes de marchands. Que ce soit avec Liliane, Eboudar, le Géaldan ou l'Andorre, c'était le commerce qui maintenait Lugard en vie. Partout où il y avait de la place, des multitudes de chariots étaient garés les uns contre les autres. Certains, bâchés et bourrés jusqu'à la gueule, étaient prêts au départ, tandis que d'autres, toujours vides, attendaient leur chargement. Dans les grandes artères, les auberges s'alignaient les unes derrière les autres, avec tout ce qu'il fallait d'écuries et d'enclos pour les chevaux. Des installations presque plus nombreuses que les maisons ou les boutiques aux toits de tuiles bleues, rouges, violets ou gris. Dans d'éternels nuages de poussière, le vacarme des forges, les grincements des roues de chariots et les rires qui montaient des tavernes composaient une assourdissante cacophonie. Alors même qu'il glissait vers l'horizon, le soleil continuait à cuire Lugard comme une céramique dans un four. Du coup, on aurait pu jurer qu'il ne pleuvrait plus jamais sur cette malheureuse cité. Quand Loghain entra enfin dans la cour d'une auberge baptisée « À l'attelage aux neuf étalons », puis mit pied à terre, Suan sauta de selle avec une satisfaction non dissimulée. Après avoir tapoté le nez de sa jument, en se méfiant de ses dents, elle songea qu'elle s'en séparait sans regret. À ses yeux, voyager sur le dos d'un animal était une hérésie. Alors qu'un bateau allait où on poussait la barre, un canasson pouvait soudain décider d'en faire qu'à sa tête. De plus, les bateaux ne mordaient pas. Si Bella s'en était abstenue jusque-là, rien ne disait que le pire ne restait pas à venir. Au moins, Suan n'avait plus mal partout. Les premiers soirs, elle aurait parié que Min et Léane riaient dans son dos lorsqu'elle la voyait marcher comme une vieillarde. Un jour en selle lui donnait toujours le sentiment d'avoir été rouée de coups, mais à présent, elle parvenait à le cacher. Dès que Loghain eut commencé à négocier avec le palefrenier, un vieux type éthique qui portait un gilet de cuir sur son torse nu, Suan approcha de Léane et lui souffla à l'oreille. « Si tu veux mettre ton charme à l'épreuve durant les heures qui viennent, choisis notre amie Daline. » Léane jeta à sa compagne un regard perplexe. Dans certains villages traversés après leur départ de Cor-les-Sources, elle s'était essayée à jouer de l'œillade ou du sourire, mais jusque-là, Loghain n'avait jamais été sa cible, même en rêve. Cependant, elle soupira, acquiesça, respira à fond, et avança de cette étrange démarche ondulante, qui donnait l'impression que son squelette n'était plus vraiment rigide. Se demandant comment diantre son ami faisait ça, et ravi de l'avoir adressé déjà un sourire à Loghain, Suan alla murmurer à l'oreille de Min. « Dès que Daline en aura fini avec le palefrenier, dis-lui que tu vas me rejoindre dans l'auberge. Puis joins le geste à la parole, et reste loin d'Amaena et de lui jusqu'à mon retour. » À entendre le vacarme qui montait de l'auberge, il devait y avoir assez de clients dans la salle commune pour qu'une armée se cache derrière eux. En tout cas, la foule devait être assez dense pour qu'on ne remarque pas l'absence d'une seule femme. Voyant Min afficher son expression rebelle, celle qui annonçait une cataracte de questions, Suan prit les devants.
« Obéis, Serenla. Sinon, en plus de lui servir ses petits plats,
je t'obligerai à cirer les bottes de ce type. » L'expression de mine ne changea pas, mais elle capitula d'un hochement de tête. Après avoir confié Bella à sa jeune compagne, Suan sortit de la cour et s'engagea dans la rue en priant pour avoir pris la bonne direction. Avec une telle chaleur et dans une telle crasse, fouiller toute la ville ne lui disait vraiment rien. De lourds chariots tirés par des attelages de 6, de 8, voire de 10 chevaux semaient la terreur dans les rues, leurs conducteurs jouant du fouet et de l'injure, autant pour stimuler ces bêtes que pour inciter les passants à lui laisser le passage. Dans leur tenue grossière, des charretiers en longs manteaux, marchant comme en terrain conquis au milieu de la foule, n'hésitaient pas à lancer aux passantes des invitations aussi rigolardes que paillardes. Assez jolis à voir avec leurs tabliers de couleurs vives parfois agrémentés de rayures et leurs têtes enveloppées d'un fichu, certaines victimes de ces rustres marchaient la tête bien droite, comme si elles n'avaient rien entendu. D'autres femmes, en revanche, celles-ci n'avaient pas de tablier ni de fichu et leurs jupes survolaient le sol à une hauteur que la décence aurait dû interdire, répliquaient encore plus lestement à ces butors. Suan sursauta lorsqu'elle s'avisa que plusieurs remarques grillardes la visaient directement. Ayant du mal à le croire malgré d'incontestables évidences, elle n'en fut pas outragée, mais seulement surprise. Pas encore habituée à avoir changé, elle n'imaginait pas que les hommes puissent la trouver attirante. Apercevant son reflet dans la vitrine crasseuse d'un tailleur, elle étudia la jeune femme à la peau claire qui arborait un grand chapeau de paille. Une très jeune femme, pas seulement d'apparence, mais pour de bon, à peine plus âgée que mine, pour tout dire. Presque une jeune fille, surtout en regard des très longues années qu'elle avait déjà vécues.
Un des avantages d'avoir été calmée,
songea-t-elle. Suan connaissait des femmes qui auraient donné presque n'importe quoi pour perdre 15 ou 20 ans. Certaines auraient même estimé que renoncer au pouvoir était un prix acceptable. En parlant d'avantages, elle essayait souvent de les recenser, sans doute pour se consoler, ou se convaincre qu'ils étaient bel et bien réels. Pour commencer, elle était libérée des 3 serments, et pouvait donc mentir à sa guise. En outre, son père lui-même ne l'aurait pas reconnue, car elle ne ressemblait pas à la jeune fille qu'elle avait été. La maturité était passée par là, et ses apports demeuraient, même si son aspect juvénile les adoucissait. En toute objectivité, elle était aujourd'hui plus jolie que lors de sa véritable jeunesse. Jolie et pas belle. Parce que nul ne l'avait jamais considérée comme telle. Mais ce nouveau visage, eh bien, il ne lui semblait pas appartenir à Suan Sanche. Mais à l'intérieur, elle n'était pas altérée, car son esprit avait conservé tout ce qu'il savait. Dans sa tête, elle était toujours la même. La plupart des auberges et des tavernes de Lougarde avaient des noms classiques comme le marteau du maréchal Ferrand, l'ours qui danse ou le cochon d'argent. En règle générale, leur enseigne illustrait de façon criarde la dénomination. D'autres appellations, en revanche, heurtaient les convenances et n'auraient pas dû être autorisées. Une des moins choquantes, le baiser de la gourgandine d'Omani, était accompagnée de l'image d'une fille à la peau cuivrée et à la bouche en cœur, nue jusqu'à la ceinture. Suan aurait bien aimé savoir ce qu'en pensait Léane, mais avec les orientations actuelles de l'ancienne gardienne des archives, ça lui aurait peut-être simplement donné des idées. Dans une rue latérale aussi large que l'avenue qu'elle quittait, Suan découvrit enfin l'établissement qu'elle cherchait. Une auberge dotée de 2 étages et couronnée d'un toit de tuiles écarlates. Sur l'enseigne, une voluptueuse jeune femme juchée sur un cheval ne portait rien à part ses cheveux, miraculeusement arrangés pour cacher les détails qu'il n'aurait pas été décent de montrer. Dès qu'elle lut le nom de cette auberge, Suan le chassa de sa mémoire tant il était provoquant. Un nuage de fumée de pipe bleue y dérivant, la salle commune était remplie de gaillards éméchés qui riaient fort et avaient la main baladeuse. Une irrévérence que les serveuses, habiles à esquiver les assauts de ces rustres, supportaient avec une admirable résignation. À peine audible dans le vacarme, une jeune femme, debout sur une table, chantait et dansait au son d'une sitar et d'une flûte. De temps en temps, pour pimenter son numéro, elle relevait sa jupe assez haut pour montrer ses jambes sur quasiment toute leur longueur. Ce que Suan capta des paroles lui donna envie de passer le goût de mentir à cette demoiselle. Pourquoi une femme se serait-elle montrée sans rien sur elle? Et quel intérêt y avait-il à évoquer cette possibilité devant un aréopage d'ivrogne? De sa vie, Suan n'était jamais entrée dans un tel lieu, et elle avait bien l'intention de ne pas s'y attarder. Suan repéra au premier coup d'œil l'aubergiste, une grande et costaude bonne femme, vêtue d'une robe de soie si rouge qu'elle en paraissait écarlate. Ses boucles teintes, la nature n'avait jamais produit une telle nuance de roux, surtout associée à des yeux si noirs, encadraient son menton en galoche et sa bouche aux plis sévères. Occupée à crier des ordres aux pauvres serveuses, elle s'arrêtait à presque toutes les tables pour échanger quelques mots avec ses clients, voire leur flanquer de grandes claques dans le dos. Suan se tint bien droite et tenta d'ignorer les regards que lui jetèrent les mâles, tandis qu'elle approchait de l'aubergiste aux cheveux de feu.
« Maîtresse Tarn ?
Siouan dut répéter 3 fois ce nom avant d'attirer l'attention de la femme.
« Maîtresse Tarn, je voudrais chanter chez vous. Je connais. »«
Tu connais, ma fille ? C'est très bien. Mais j'ai déjà une chanteuse. Bah, tu pourras la remplacer pendant ces pauses. Fais un peu voir tes jambes. »«
Je connais la chanson des 3 poissons !»
précisa Siouan en s'époumonant à demi. Ce devait être la bonne aubergiste. Dans une cité, il ne pouvait pas y avoir 2 femmes arborant des cheveux pareils, surtout en portant le même nom et en dirigeant la même auberge. De plus en plus hilar, maîtresse Tarn tapa sur l'épaule d'un client, qui faillit en basculer de sa chaise.
« Ah ! Celle-là, personne ne la demande ! Pas vrai, Pelle ?»
Le dénommé Pelle, un conducteur de chariot, à voir le fouet enroulé autour de ses épaules, s'esclaffa avec l'aubergiste.
« Et je connais aussi le ciel bleu à l'aube !»
L'aubergiste s'essuya les yeux comme si elle venait de rire aux larmes.
« Sans blague ! Je suis sûr que nos braves gars adoreront ça. Bon, ça vient à ses jambes ? Sinon, ne me fais pas perdre mon temps !»
Siouan hésita. Mais maîtresse Tarn ne la quittait pas du regard, et pas mal de clients commençaient à l'imiter.
« Par toutes les entrailles de poissons du monde, ça doit être la bonne aubergiste !»
Siouan remonta sa jupe jusqu'à ses genoux. La grande femme ayant un geste impatient, elle ferma les yeux et se troussa de plus en plus haut en sentant le rouge lui monter aux joues.
« Une noix blanche !»
s'écria maîtresse Tarn.
« Si ton répertoire se limite à ces chansons, il te faudra de sacrées jolies jambes pour couper le souffle à un gaillard. Avec ces bas de laine, je ne peux pas dire si c'est le cas. Allons, suis-moi ma fille, et magne-toi le popotin !»
Siouan ouvrit des yeux furibonds, mais l'aubergiste se dirigeait déjà vers le fond de la salle commune. Droite comme une statue, Siouan laissa retomber sa jupe et suivit le mouvement en se fermant aux remarques salaces qui fusaient sur son passage. Le visage de pierre, elle n'était à l'intérieur qu'un mélange de fureur et d'angoisse. Avant d'être nommée chère d'Amirline, elle dirigeait le réseau d'espionnage de l'Aja Bleu, certains de ses membres étant ses yeux et ses oreilles personnels, et il était resté après son ascension. Depuis sa chute, il ne s'était pas passé assez de temps pour que beaucoup de choses aient changé. Duranda Tarn faisait déjà partie du réseau à l'époque où elle l'avait pris en main, et ses informations étaient réputées pour leur précision. Les yeux et les oreilles ne se trouvaient pas à tous les coins de rue, et leur fiabilité variait énormément. Entre Tarvalon et Lugard, par exemple, Siouan ne connaissait qu'une femme à ses lignes de confiance pour qu'elle ait tenté de la contacter, à 4 Rois, un village du royaume d'Andorre. Hélas, l'espionne s'était volatilisée. Lugard étant une plateforme commerciale, tous les ajats devaient y avoir des yeux et des oreilles. Un point que Siouan aurait été prudente de ne pas oublier.
Le navigateur qui court peu de risques rentre plus facilement au port.
L'aubergiste correspondait parfaitement à la description de Duranda Tarn, et aucune autre auberge ne pouvait avoir un nom si immoral. Mais pourquoi avait-elle réagi ainsi face au code qui identifiait Siouan comme un autre agent de l'Aja Bleu ? Quoi qu'il en soit, Siouan devait courir le risque. À leur manière, Min et Léane devenaient aussi impatientes que Loghain. La prudence permettait de revenir au port, certes, mais avec un peu d'audace, on y retournait avec une cale bien remplie. Au pire, elle pourrait assommer la femme avec un objet quelconque, puis filer par la porte de derrière. Considérant la taille et la carrure de maîtresse Tarn, sans parler de ses bras de docker, Siouan espéra qu'elle ne se berçait pas d'illusions. Dans le couloir menant en cuisine, l'aubergiste poussa une porte qui donnait sur ce qui devait être un petit bureau chichement meublé. Une table de travail, une chaise, un miroir mural et, surprise, une bibliothèque contenant quelques livres. Dès que la porte se fut refermée sur les 2 femmes, maîtresse Tarn se campa devant Siouan, les poings sur les hanches.
« Bon, que me veux-tu ? Inutile de me donner un nom, je refuse de le connaître, que ce soit le vrai ou non. »
Siouan se sentit bien moins angoissée, mais toujours aussi furieuse.
« Tu n'avais pas le droit de me traiter ainsi, me forcer à... »« J'avais tous les droits, parce que nécessité fait loi. Si tu étais venu à l'ouverture ou à la fermeture, comme l'indique la procédure, je t'aurais fait entrer ici discrètement. » Si je t'avais accompagné comme une amie perdue de vue depuis beau temps, tu crois qu'aucun de ces hommes n'aurait eu de soupçons ? Je ne peux pas me permettre d'éveiller la suspicion des gens. Estime-toi heureuse que je ne t'ai pas forcé à prendre la place de sous-sous sur la table. Et quand tu me parles, tiens un peu ta langue. »
Maîtresse Tarn leva une main menaçante.
« J'ai des filles plus âgées que toi, toutes mariées, et quand je leur rends visite, elles filent doux. Marche-moi sur les orteils et tu sauras pourquoi elles me respectent. Personne ne t'entendra crier. » Et même dans le cas contraire, qui serait assez fou pour intervenir ?
Comme si la discussion était close, elle remit sa main sur sa hanche.
« Bon, que me veux-tu ? »
Durant ce sermon, Xuan avait plusieurs fois tenté d'intervenir, mais autant essayer de s'opposer à la marée montante. Une situation dont elle n'avait pas l'habitude. Du coup, quand maîtresse Tarn consentit à se taire, l'ancienne chère d'Amerline tremblait de colère, les mains serrées sur le devant de sa robe. Elle se retint pourtant.
« Je suis censé être un autre agent. Pas la chère d'Amerline, mais une espionne parmi d'autres. »
De plus, elle soupçonnait l'aubergiste d'être capable de mettre ses menaces à exécution. Ça aussi c'était nouveau. Face à une personne, devoir tenir compte de sa taille et de sa force.
« On m'a confié un message à transmettre à un groupe de... celles que nous servons. Ne les ayant pas trouvées à l'endroit prévu, j'ai espéré que tu pourrais m'aider. »
Xuan espéra que l'aubergiste prendrait pour de la peur la fureur qui faisait trembler sa voix. Si elle la croyait intimidée, elle serait sans doute plus encline à lui porter secours. Les bras croisés sous son imposante poitrine, maîtresse Tarn dévisagea Xuan.
« Tu sais contrôler tes nerfs quand il le faut, pas vrai ? Qu'est-il arrivé à la tour ? Et n'essaie pas de nier que tu en viens, arrogante damoiselle. Ton message est du genre qu'on confie à une estafette. Et tu n'as pas appris ces manières hautaines dans une ferme. »
Xuan prit une profonde inspiration.
« Xuan Sanche a été calmée, »
dit-elle, fière que sa voix ne tremble plus.
« Elaïda Aroihan est la nouvelle chère d'Amerline. »
Là, il y avait une pointe d'amertume quand même. Maîtresse Tarn ne parut pas bouleversée.
Voilà qui explique certains de mes ordres les plus récents. « Calmée, dis-tu ? Je pensais qu'elle resterait à son poste jusqu'à la fin des temps. Je l'ai vue de loin à Kemlin il y a quelques années. On l'aurait cru capable de manger des harnais de cuir au petit déjeuner. Eh bien, la page est tournée. Les ajats sont divisés, je parie. Deux correspondent. Mes ordres, la vieille peau calmée. La tour se lézarde et les sœurs bleues sont en fuite. »
Xuan serra les dents. Elle tenta de se convaincre que l'aubergiste était loyal à l'aja bleu, pas à sa personne. Mais quand même.
« La vieille peau, elle pourrait être ma mère. Et si c'était le cas, je me jetterais à l'eau. »
Non sans effort, Xuan parvint à prendre un ton soumis.
« Mon message est important. Il faut que je reparte le plus vite possible. Peux-tu m'aider ?»« Important ? Moi, j'en doute. Bon. Je peux te donner quelque chose. Mais ce sera à toi de résoudre l'énigme. Ça t'intéresse ?»
Décidément, l'aubergiste se montrait peu coopérative.
« Oui, j'écoute. Sali Daira. J'ignore de qui il s'agit, ou s'agissait. Mais on m'a dit de donner son nom à toute sœur bleue qui viendrait me voir en étant perdue, pour exprimer les choses comme ça. Tu n'es pas une Aes Sedai, certes, mais tu n'as rien à leur envier en matière d'arrogance, alors. Sali Daira, fais-en ce que ça te chante. »
Xuan parvint à dissimuler son excitation.
« Jamais entendu parler d'elle. Je vais devoir continuer à chercher.
Si tu les trouves, dis à Elden Sedai que je suis toujours loyal, quoi qu'il soit arrivé. Je sers les sœurs bleues depuis si longtemps que je ne saurais plus que faire de ma carcasse sans elles.
Je le lui dirai, »
promit Xuan. Jusque-là, elle ignorait qu'Aelden l'avait remplacée à la tête du réseau. Quel que soit son âge d'origine, la chair d'Amerline n'appartenait plus à aucun.
« Je suppose qu'il va te falloir un prétexte pour ne pas m'engager. Je chante mal, ça devrait suffire.
Ah, comme si ça intéressait ces brutes dehors. »
L'aubergiste eut un sourire qui déplut à Xuan.
« Je trouverai bien quelque chose, gamine. Permets-moi un conseil. Si tu ne descends pas d'un barreau ou deux, une Aes Sedai finira par te jeter en bas de l'échelle. D'ailleurs, je m'étonne que ce ne soit pas déjà fait. Maintenant, hors de chez moi. »
« Quelle sale bonne femme !»
pesta intérieurement Xuan.
« Si c'était encore à mon pouvoir, je l'aurais obligé à se flageller jusqu'à ce que les yeux lui en sortent de la tête. »
Cet aubergiste exigeait plus de respect. Eh bien, elle allait être servie.
« Merci de ton aide. »
dit Xuan avec une révérence qui aurait fait l'affaire dans n'importe quel palais royal.
« Tu as été trop gentille. »
Alors qu'elle avait fait trois pas dans la salle commune, Xuan entendit la voix de maîtresse Tarn dans son dos.
« Une petite dinde ! Des jambes assez blanches et fines pour vous en faire tous baver de désir. Mais quand je lui ai dit qu'il faudrait les montrer, voilà qu'elle s'est mise à brailler comme un bébé, assise sur le sol à verser toutes les larmes de son corps. Des hanches faites pour la main de l'homme et... »
Sous les éclats de rire, pas assez fort pour couvrir les sarcasmes de l'aubergiste, Xuan tituba. Après avoir fait trois nouveaux pas, elle s'enfuit carrément à toutes jambes. Dans la rue, elle s'arrêta pour reprendre son souffle et laisser son cœur se calmer.
« Cette vieille morue desséchée, je devrais... »
Désagréable ou pas, voire dégoûtante, l'aubergiste lui avait dit ce qu'elle voulait entendre. Sali Daira n'était pas une femme, morte ou vivante, mais seule une sœur bleue pouvait deviner. Salidar. Le village natal de Dehan Ariman, la sœur bleue nommée Cher d'Amerline après la chute de Bonwin, la sœur rouge qui avait failli provoquer la ruine de la tour. Salidar, à la frontière de la Madicia. Un des derniers endroits où on serait allé chercher des Aes Sedai. Du coin de l'œil, Siouan vit que deux caps blanches à cheval remontaient la rue dans sa direction. On en voyait partout ces derniers temps. Inclinant vers le bas son chapeau, Siouan garda un œil sur les deux fils et se rapprocha de la façade bleue et vert de l'auberge. En passant, les deux hommes lui jetèrent un regard dur sous leur casque conique. Puis ils continuèrent leur chemin. Siouan se mordit la lèvre inférieure de rage. En reculant, elle avait attiré leur attention, s'était courue. Et s'ils avaient vu son visage? Eh bien, ils n'en auraient rien conclu, tout simplement. Deux fils rencontrant une Aes Sedai solitaire pouvaient tenter de la tuer, mais cela n'aurait pas pu l'identifier, car elle n'avait plus l'apparence d'une sœur. La voix reculée les avait intrigués, c'était tout. Sans le petit numéro de Duranda Tarn, elle n'aurait pas commis une erreur pareille. Dire qu'il y avait une époque pas si lointaine où les imprécations de l'aubergiste ne l'auraient même pas fait tressaillir, en supposant que cette grande perche de minable rascasse ait osé les proférer.
Si cette mégère n'aime pas mes manières, je vais...
Non, pas de vengeance.
Tu vas t'occuper de tes affaires
et éviter que cette harpie te rosse au point que tu ne puisses plus tenir en selle. Parfois, Siouan avait du mal à se souvenir que le temps où les rois et les reines lui obéissaient était révolu. Sur le chemin du retour, elle fulmina tellement que la plupart des conducteurs de chariots ravalèrent leurs remarques et grillardes. La plupart, oui, mais pas tous. Dans la salle commune de l'attelage aux neuf étalons, assise sur un banc, dos au mur, Léane surveillait une table entourée par un cercle d'hommes debout. Un mélange de conducteurs de chariots, reconnaissables aux fouets enroulés autour de leurs épaules, et de gardes du corps de marchands, identifiables à l'épée qu'ils portaient aux côtés. Six autres types étaient assis autour de cette table, Léane et Loghain trônant à une extrémité. De sa position, Mine voyait que Loghain tirait la tête, alors que les types buvaient le sourire et les propos de Léane. Dans l'air enfumé, le vacarme des conversations couvrait pratiquement le son de la flûte et du tambour qui accompagnait une chanteuse perchée sur une table, entre les deux cheminées de pierre. Pour ce que Mine en entendait, sa chanson parlait d'une femme résolue à convaincre six imbéciles que chacun était le seul et unique homme de sa vie. Même si ce thème la faisait rougir, Mine le trouvait hautement intéressant. De temps en temps, la chanteuse jetait des regards jaloux à la fameuse table, et plus précisément sur Léane. Lorsqu'ils étaient entrés dans l'auberge, la grande et belle Domani menait déjà Loghain par le bout du nez. Avec sa démarche ondulante et ses yeux de braise, elle avait depuis attiré les hommes comme le miel attire les mouches. Il avait d'ailleurs failli y avoir une rixe. Loghain et les gardes du corps avaient dégainé leur épée, des couteaux étaient sortis de sous les vestes, et l'aubergiste avait accouru avec deux de ses gorilles armés de gourdins. Après avoir allumé cet incendie, Léane l'avait éteint en usant de la même tactique. Un sourire par-ci, une œillade par-là, une joue tapotée du bout des doigts. L'aubergiste lui-même était resté comme fasciné, souriant bêtement, jusqu'à ce que le devoir l'appelle ailleurs. Dire que Léane prétendait manquer d'entraînement. Décidément, certaines choses n'étaient pas justes.
Si je pouvais faire cet effet sur un seul homme, bien précis, ça me suffirait amplement. Léane accepterait peut-être de m'apprendre. Mais quelle mouche me pique par la lumière ?
Depuis toujours, Mine se montrait telle qu'en elle-même, laissant aux autres le loisir de l'accepter ou de la rejeter. Et voilà qu'elle envisageait de changer, et tout ça pour un homme. N'était-il pas déjà assez grave qu'elle soit obligée de se déguiser en portant une robe à la place des vêtements masculins qu'elle affectionnait depuis toujours ?
Attends un peu qu'il te voie dans une robe au décolleté plongeant. Tu as davantage à montrer que Léane sur ce plan et... Non, arrête ça !
Nous devons aller au sud,
murmura soudain Siouan à l'oreille de Mine, qui sursauta, car elle n'avait pas entendu venir sa compagne.
Et tout de suite.
À voir la lueur qui dansait dans ses yeux bleus, Siouan avait appris quelque chose d'intéressant. Hélas, rien ne prouvait qu'elle aurait envie d'en faire profiter ses deux amis. Parfois, on eût dit qu'elle se prenait toujours pour la chair d'Amerline.
Il est trop tard pour partir et atteindre une auberge ou descendre,
objecta Mine.
Il vaudrait mieux passer la nuit ici.
Une bonne nuit dans un lit serait agréable, après avoir si souvent dormi à l'abri d'une haie ou sur des ballots de foin. Et ce, même si Mine devrait partager un grand lit avec Siouan et Léane. Loghain militait pour qu'ils aient une chambre chacun, mais l'ancienne chair d'Amerline se montrait d'une radinerie hors du commun, même quand Loghain entendait desserrer très légèrement les cordons de leur bourse. Siouan regarda autour d'elle, soupçonneuse. Mais tous les gens qui ne reluquaient pas Léane écoutaient la chanteuse.
« C'est impossible, parce que je crains que des capes blanches s'intéressent à moi. »« Eh bien, Daline ne va pas aimer ça. Dans ce cas, ne le lui dis pas. »
Siouan tourna la tête vers l'attroupement autour de Léane et soupira.
« Va dire à Amaena que nous devons y aller. » Daline la suivra. Espérons que ses autres admirateurs s'en abstiendront.
Mine eut un demi-sourire. Xuan prétendait se ficher que Loghain, enfin Dalin, dirige à présent le groupe. Pour l'essentiel, en l'ignorant quand elle tentait de le manipuler. Mais en réalité, elle brûlait d'envie de le remettre au pas.
« Au fait ?»
demanda Mine en se levant.
« C'est quoi un attelage aux 9 étalons ? J'en connais à 8 ou 10 bêtes, mais à 9 ?»
Elle était sortie pour voir si le dessin de l'enseigne lui en apprendrait plus. Mais il n'y avait que le nom, contrairement à l'usage.
« Dans cette ville, »
répondit Xuan, l'air pincé.
« Il vaut mieux ne pas se poser la question. »
Voyant son amie Rosir, Mine devina qu'elle devait connaître la réponse.
« Allons, va chercher nos tourtereaux. Nous avons un long chemin à faire et pas une minute à perdre. Et arrange-toi pour que personne n'entende où nous allons. »
Mine eut un rictus amer. Avec les sourires que distribuait Léane, aucun de ces hommes ne verrait une fille comme elle. Mais comment Xuan avait-elle attiré l'attention des Capes Blanches ? C'était la pire chose qui pouvait arriver, et l'ancienne chère d'Amirline n'était pas du genre à commettre des bévues. En approchant de la table, Mine se demanda comment elle aurait pu faire pour que Rand la dévore des yeux comme ce type dévorait Léane. Si le groupe devait chevaucher toute la nuit, ce qui semblait probable, la Domanie accepterait peut-être de lui donner un ou deux trucs.